Elle aurait eu 200 ans aujourd'hui, un monstre sacré du cinéma, Greta Garbo. Greta Garbo fut la fondatrice d'un ordre religieux appelé le cinéma. Federico Fellini. D'histoire. Rien ne prédisposait cette Suédoise à devenir un jour l'actrice la plus célèbre de l'entre-deux-guerres, la plus mystérieuse aussi. Après 25 films tournés en 20 ans, celle que tout le monde avait surnommée la Divine décidait un jour de quitter les studios d'Hollywood pour se cacher pendant 50 ans dans un appartement de Manhattan. Refusant les interviews, mais traquée par les photographes et quelques admirateurs qui n'avaient pas oublié celles qu'ils avaient aimées dans les rôles d'Anna Karénine, de Mata Hari, de la Reine Christine, de la Dame aux Camélias ou de Marie Walewska, Greta Garbo est morte dans la solitude à 84 ans, en emportant tous les secrets qui ont fait d'elle l'actrice la plus fascinante de l'histoire du cinéma. France Inter, Denis Estagneau, le 16 avril 1990.
La mort de la reine Christine, Greta Garbo, l'une des dernières grandes stars d'avant-guerre, s'est éteinte dans un hôpital de New York hier. Elle avait 84 ans. La Divine n'avait plus tourné depuis 1941. Bonjour. La Divine a rejoint le paradis des acteurs. À 84 ans, Greta Garbo était l'une des dernières grandes stars de l'âge d'or de Hollywood. Cette grande Suédoise à la beauté glacée faisait partie de la légende du cinéma. Elle est morte hier dans un hôpital de New York. La vie de Greta Garbo se divise en deux parties bien distinctes. La première avec le cinéma muet, puis le cinéma parlant dans les années 30. La seconde à partir de 1941 avec la solitude pour toute compagne. En tout cas, Greta Garbo, dans notre souvenir, ce sera d'abord cette voix.
I've been memorizing this room. In the future, in my memory, I shall live a great deal in this room.
Et c'était un extrait de la Reine Christine et de cette voix que l'on n'entendait qu'au cinéma, puisque toute sa vie, Greta Garbo a refusé les interviews, elle détestait la publicité, elle n'en avait d'ailleurs pas besoin. Jean-Olé Laprune, bonjour.
Bonjour.
Alors, vous êtes critique de cinéma, dont vous connaissez bien l'histoire, et notamment celle de Greta Garbo, qui est née il y a 100 ans, j'ai dit 200 ans au début d'émission, je l'ai beaucoup vieilli, elle est née en 1905. Pourquoi est-ce que cette femme qui fuyait les journalistes, qui détestait les mondanités, qui se cachait en permanence derrière ses lunettes noire, pourquoi a-t-elle à ce point marqué l'histoire du cinéma? Qu'est-ce qu'elle avait de plus?
Les raisons sont multiples. Il y en a une qui me paraît fondamentale, c'est une photogénie absolument incroyable. Billy Wilder, qui était scénariste d'un de ses films, disait que le miracle se produisait non pas sur le plateau, mais au moment de l'émulsion du film. Tous les metteurs en scène qui ont travaillé avec Greta Garbo étaient unanimes là-dessus. Il se passait pas grand-chose sur le plateau, disait Clarence Brown. Puis d'un seul coup, dès qu'on la voyait sur un écran, on ne voyait plus qu'elle. La comédienne Maureen Sullivan, qui jouait avec elle dans Anna Karenine, disait, quand on jouait avec elle, elle faisait rien, elle était même parfois mauvaise, on avait l'impression. Puis d'un seul coup, elle soufflait tout le monde. Et pour prendre un dernier exemple, le roman de Marguerite Gauthier de Georges Cukor, la première scène devait se dérouler dans un théâtre. Marguerite Gauthier arrive et elle doit se promener au milieu des gens en costume. On doit montrer qu'elle est là uniquement pour être vue par tout le monde. Donc Georges Cukor lui avait dit, s'il vous plaît, bougez un petit peu. Et Greta Garbo avait joué la scène vraiment à minima, se glissant furtivement. Cukor était pas très content, et quand il a vu ça sur l'écran, effectivement, il s'est rendu compte que c'est elle qui avait raison, et on ne voyait qu'elle sur l'image.
Alors Garbo, c'est un destin tout à fait extraordinaire. Elle est née à mille lieues de Hollywood, elle est née en Suède en 1905, il y a donc 100 ans, le 18 septembre 1905, dans une famille d'ailleurs, et dans un milieu qui ne la prédisposait pas au cinéma. C'est assez pathétique cette enfance.
Famille très très pauvre, effectivement, le père était balayeur de rue, il avait vécu l'exode rural, il s'était réfugié à Stockholm. Il est mort très jeune quand Greta Garbo avait 15 ans. Elle avait un frère et une sœur plus âgés qu'elle. Et très vite, elle a été obligée de travailler. Elle a travaillé chez un barbier, elle a travaillé dans un grand magasin où elle a fait de la figuration pour les films. Elle garde de son enfance un souvenir très très mélancolique, de grande solitude. Elle en parlait d'ailleurs très très peu dans les rares interviews qu'elle a pu donner.
Ce qui est curieux aussi, que quand on voit les photos d'elle, quand ce physique extraordinaire, c'est qu'elle n'était pas gâtée par la nature non plus quand elle était enfant.
Alors bon, là, nous anticipons un petit peu, mais effectivement, quand elle est arrivée dans les studios hollywoodiens, la première chose que lui a dit Louis Meyer en disant, s'il vous plaît, vous perdez quelques kilos, pour dans des termes plus grossiers que ça. Donc effectivement, sur les photos que nous avons d'elle, et même sur les premiers films suédois qu'elle a tournés, c'est un personnage assez rond, plutôt enveloppé, mais il y a déjà sur ces films une présence absolument incroyable.
Et il y avait déjà en Suède, elle avait déjà une passion pour le théâtre, qui dans le début, au début des années 20, lui fera rencontrer le directeur du théâtre des Champs-Élysées, de passage en Suède, Jacques Héberto.
J'étais en Suède avec une longue tournée française, et quand je suis arrivé à Stockholm, au Théâtre Royal, nous avions besoin sur place de figurants, et une jeune fille est venue me voir, et elle m'a dit, j'appartiens au conservatoire de Stockholm, et je serais très heureuse de pouvoir jouer avec mes camarades illustres français. Et je lui ai dit, mais oui, mademoiselle, comment vous appelez-vous? Et elle m'a dit, je m'appelle Greta Gustafsson. Et Greta Gustafsson est devenue Greta Garbo.
Et oui, avant de devenir Greta Garbo, elle s'appelait Greta Gustafsson. C'est pas Héberto, mais c'est quelqu'un d'autre qui est très important, qui était dans sa vie, qui est un réalisateur suédois. C'est Moritz Stiller qui lui a donné son nom de Garbo.
Absolument, pour deux raisons qui sont d'ailleurs assez mystérieuses. On ne sait pas d'où provient l'origine du nom, sinon qu'il fallait un nom qui, pour Stiller, soit un nom international qui puisse aussi bien être vendu en France, en Allemagne, en Italie. Donc Garbo semblait lui convenir. Effectivement, Stiller est le grand nom qui accompagne la carrière de Garbo à ses débuts, qui va être véritablement son mentor, qui est l'opposé de Greta Garbo. Autant elle, adolescente, très jeune et timide, renfermée, Stiller est un géant, il s'habille de façon assez extravagante, il a une opinion sur tout, il a des voitures de sport et de course, enfin, c'est vraiment l'opposé de Greta Garbo. Et il va faire d'elle, comme il dit, je peux la travailler comme de la cire. Et ils vont tourner ensemble un film dans lequel Garbo n'a pas la vedette, qui s'appelle La légende de Gösta Berling, d'après Selma Lagerlöf, qui va être un gigantesque succès en Suède, mais également dans toute l'Europe, notamment en Allemagne, qui à l'époque est le grand marché du
cinéma. Oui, parce
que
Stiller va l'amener en Allemagne, où elle va tourner avec Pabst, dans La rue sans joie.
Qui était effectivement un grand classique. Ils ont été obligés de tourner, parce qu'à cause de l'échec d'un autre film qui n'a jamais pu se tourner, qui aurait dû se passer en Turquie. Et donc ils sont rentrés penauds l'un et l'autre de Turquie, et tournaient La rue sans joie de Pabst.
Et avant, parce que la capitale du cinéma, c'est pas Berlin, c'est pas Stockholm, c'est Hollywood. Alors avec Stiller, amène Greta Garbo à Hollywood. Et là, alors là, l'accueil est plutôt glaçant, il est plutôt froid. Rien n'indiquait qu'elle deviendrait la reine de Hollywood, Aurélie Laprune.
Déjà, on les laisse à New York, et Stiller et Greta Garbo patienter pendant 2-3 mois, sans rien faire, pendant l'été 1925, attendant. Il faut bien préciser que c'est Stiller qui, semble-t-il, a intéressé les studios hollywoodiens, qui étaient le grand metteur en scène suédois, et que, accessoirement, il a amené Greta Garbo dans ses bagages comme prime. C'est l'inverse qui va se produire. La carrière de Stiller à Hollywood va être un véritable fiasco. Il va rentrer très vite en Suède, en 1928, où il va mourir. Alors que Greta Garbo, qui était arrivée un petit peu par hasard là-bas, d'un seul coup, sa carrière va décoller de façon incroyable.
Alors, grâce à un film, le troisième qu'elle tourne à Hollywood, qui s'appelle, je crois, La chair et le diable, et là, elle fascine les spectateurs. Elle joue avec le playboy de Hollywood de l'époque, qui s'appelait John Gilbert.
Et elle joue avec la grande vedette de la Metro-Goldwyn-Mayer, John Gilbert. C'était le héros de la grande parade de King Vidor, qui à l'époque est la star et qui a l'élégance de faire partager à Greta Garbo l'affiche, et donc sur l'affiche c'est John Gilbert et Greta Garbo. Et à cette occasion, elle rencontre le metteur en scène avec lequel elle tournera le plus, peut-être pas le meilleur, mais en tout cas celui avec lequel elle fera sept films, qui s'appelle Clarence Brown.
Gilbert, qui était lui-même fou amoureux d'elle, qui l'a demandé en mariage, ce qu'elle a refusé. Enfin, c'était une aventure qui a fait parler, qui a fait jaser tout Hollywood, Jean-Louis Laprune.
L'histoire du mariage raté de Greta Garbo a été racontée par King Vidor, puisque dans une conversation un soir entre King Vidor et sa fiancée Eleanor Boardman, John Gilbert et Greta Garbo, King Vidor a l'idée, et si on faisait un double mariage ensemble? Et la surprise générale, Greta Garbo accepte. Sauf qu'au dernier moment, Greta Garbo ne se présentera pas, et donc King Vidor épousera Eleanor Boardman, puisque John Gilbert, quelques années plus tard, il poussera quelqu'un d'autre, au grand dépit, semble-t-il, de Greta Garbo.
En tout cas, grâce à ce film, La chair et le diable, elle devient une comédienne très très connue, sa renommée atteint et dépasse même celle des grandes actrices de l'époque, Gloria Swanson, Louise Brooks, Paula Negri, Lillian Gish, Norma Scherer, peut-être parce qu'elle a su surmonter l'épreuve qui était pour les acteurs les débuts du cinéma parlant, lorsque le 14 mars 1930 sortait Anna Christie, le premier film dans lequel les Américains entendait pour la première fois la voix de Greta Garbo demandant un verre de whisky dans un bar.
Good evening, ladies and gentlemen. We are now in the famous forecourt of Grauman's Chinese Theater on Hollywood Boulevard in Hollywood, California.
Give me a whiskey, ginger ale on the side. And awfully stingy, baby.
Well, shall I serve it in a pail?
I'll let it sink down to the ground. I'm gonna have another drink.
What do you say? Will you have something on me?
Sure thing. Sit over here. Let's be friends, huh?
Whisky, let's be friends, les premiers mots de Garbeau à l'écran et une voix, un accent qui ont fasciné tout le monde, alors que c'était une épreuve terrible. Énormément d'acteurs ont été mis à l'écart parce que leur voix ne correspond pas du tout à ce qu'on attendait d'eux, alors qu'on les connaissait dans le cinéma muet.
Effectivement, au moment où Greta Garbeau se met à parler, de grandes vedettes du muet ont mordu la poussière, des gens comme Robbie LaRocque, comme Corinne Griffiths, Vilma Banky, qui restent plus que des noms aujourd'hui. Beaucoup d'Européens comme Emily Hennings, qui faisait carrière à Hollywood, rentrent dans leur pays. Et c'est un petit peu dans ce contexte que Greta Garbo affronte le parlant. Alors il faut bien voir qu'elle l'affronte très tardivement. C'est-à-dire que la maître Gawain Meyer, avec laquelle elle est sous contrat, tarde à se lancer dans le parlant et tarde encore davantage à lancer sa grande vedette. Garbo tourne ce qui sera probablement, si on fait l'exception des films de Chaplin, le dernier film muet de l'histoire du cinéma américain, qui s'appelle Le Baiser de Jacques Feder. Et après, on la lance dans le parlant. Alors qu'est-ce qu'on va lui faire faire? Et là, on discute beaucoup avec maître Gawain Meyer. Louis Meyer lui dit, on va la doubler et on va lui donner un grand rôle, comme on lui donnera plus tard les rôles à Irene Christine. Pas du tout, dit Irene Thalberg, qui lui dirige la production. On va lui donner un rôle à texte. Il pense d'abord au Jeanne d'Arc de Georges Bernard Shaw. Bernard Shaw ne veut pas. Et donc, il se réfugie chez Anna Christie, la pièce de Jean O'Neill qui avait été créée en 1921, disant, parce que c'est pratique, elle est suédoise, ça fera passer l'accent, et le texte jouissait d'une très grande réputation. Et la phrase que l'on vient d'entendre, tout ceci était mis en scène de façon tout à fait remarquable, la phrase que l'on vient d'entendre intervient dans le film. Give me a whiskey, je ne vais pas le répéter, intervient après 16 minutes de film quand même, alors qu'on attend l'arrivée de Garbeau, puis d'un seul coup, elle rentre dans le champ, et elle prononce cette phrase qui, effectivement, va bouleverser sa carrière.
Et qui va faire d'elle, alors, une vedette très recherchée, la une des mieux payées, sinon la mieux payée d'Hollywood, je crois que c'était 250 000 $ par film, ce qui allait
pas négocier âprement son contrat, et partant quand on ne l'augmentait pas.
Donc. Très, très radin aussi. Et alors, à Hollywood, où elle se fait, elle refuse, elle fuit les mondanités, elle fait vraiment le contraire de ce que font tous les autres acteurs, elle repousse les journalistes. À quoi est-ce que correspond cette discrétion de Garbeau? Est-ce que c'est de la timidité ou au contraire une manière très astucieuse au fond d'entretenir la curiosité et le mystère? Jean-Louis Laprune.
A priori, c'est une timidité maladive qu'elle avait déjà quand elle était en Suède et qui s'est accentuée quand elle est arrivée à Hollywood. Elle a beaucoup, beaucoup souffert de la langue. Par exemple, je ne sais plus sur quel film, à un moment, elle a fait marrer tout le monde sur le plateau en disant « Je ne me sens pas à l'aise au sommet d'un cheval ». Donc tout le monde a éclaté de rire. Elle en a été très, très blessée. D'où ce sentiment, ce goût pour la solitude qu'elle a toujours professé. C'était l'horreur pour elle. C'était la bête noire du service publicité de la maître Gawain Meyer qui tournait ça en avantage en faisant d'elle l'actrice inaccessible, la vedette à qui personne ne veut parler. Mais toute sa vie, elle a adoré la solitude. Elle a toujours professé ça à des niveaux absolument incroyables. Quand quelqu'un pouvait lui faire un compliment dans une réception, parce qu'elle avait quand même une vie mondaine, elle était capable de pouvoir accepter ce compliment, de partir et de quitter la réception.
Elle fuyait les journalistes, les admirateurs et puis aussi les soupirants, comme elle le fait d'ailleurs à l'écran, dans un de ses plus grands rôles, la reine Christine, la plus grande souveraine de l'histoire de son pays d'origine, la Suède, qui avait vécu d'ailleurs avec une éducation de garçon, là je parle de la reine Christine, avant d'être roi, parce qu'elle refusait qu'on l'appelle reine, c'était vraiment un garçon manqué, et qui refusait aussi de se marier, comme lui demandaient tous ses sujets.
Your Majesty. Votre Majesté, je voudrais vous parler de ce mariage avec le prince Charles. Ah, toujours le même sujet. Votre Majesté, c'est pour la Suède, c'est votre devoir. Mon devoir, n'est-ce pas assez de donner mes jours et mes nuits à l'État? Nul ne peut m'obliger à me marier. Vous devez donner un héritier à la Suède. Pas avec Charles. Vous êtes reine de Suède, la fille de votre père. Vous ne pouvez mourir vieille fille. Je n'en ai pas l'intention. Je mourrai célibataire.
I shall die a bachelor.
Célibataire, disait la reine Christine, comme Greta Garbo, hein, qui l'incarnait dans ce film, qui était, je crois, le plus grand succès de Greta Garbo, de ses 25 films. Pourquoi ce célibat, ce refus des hommes? On parle beaucoup de l'homosexualité de Greta Garbo, Jean-Lé Laprune.
Alors, ça fait partie du mystère. Effectivement, Greta Garbo a connu plusieurs hommes, et également des femmes. Pas dans des proportions. Il y a un de ses biographes, Barry Paris, qui racontait qu'il avait enquêté sur elle pendant 4 ans, interviewé des centaines de personnes, et pour ce qui concerne ses relations avec les femmes, on est arrivé à la conclusion d'une liaison sûre et certaine, de 3 autres probables, et de conclure, il n'est pas impossible qu'il y en ait eu d'autres, mais il n'est pas impossible non plus qu'il n'y en ait pas eu, qu'il n'y en ait pas eu plus. Sous-entendu que la vie sentimentale de Greta Garbo, que ce soit avec les hommes ou avec les femmes, ne se caractérisait pas par une exubérance extravagante.
J'imagine que jouer le rôle de celle qui a été la plus grande reine ou le plus grand roi de Suède, la reine Christine, ça devait être quelque chose pour cette Suédoise qui était Greta Garbo.
D'autant que c'est une idée qui est partie d'elle et d'une de ses amies, Salka Firtel, parce que dans le personnage de la reine Christine, il y a beaucoup d'éléments qui devaient plaire à Garbo. La solitude, le fait d'être dans une prison dorée, le côté garçon manqué également de la reine Christine, tout ceci devait lui plaire. Effectivement, quand Salka Firtel, l'amie de Greta Garbo, est venue proposer le sujet à Erwin Thalberg, le premier réflexe de celui-ci a été d'accentuer tous les côtés homosexuels de l'histoire en disant, est-ce que vous avez vu Jeune fille en uniforme, qui était un film de Léontine Sagan, dit, voilà ce que nous allons faire. Ce qui explique beaucoup d'allusions qui sont dans le film sur le sujet.
Alors après l'immense succès de la reine Christine, Garbo va jouer d'autres rôles de femmes célèbres, Anna Karenine, la dame aux camélias, Marie Walewska, qui vont lui donner une réputation de femme austère, de femme froide, distante, et qui ne sourit jamais jusqu'à ce que paraisse le premier film comique de Bardot avec Ernst Lubitsch dans Ninotchka, donc le film d'Ernst Lubitsch, Ninotchka, une communiste pure et dure venue de Moscou et qui va succomber au charme et au plaisir de la vie parisienne.
Je suis Nina Yakushova, envoyée par le commissaire Radini. Présentez-moi vos collègues.
Comrade Kropotsky.
Comrade, let's not waste any time. Shall we go?
Porter, here please.
Porter.
What do you want?
Que voulez-vous? Vos valises, madame. Pourquoi? C'est un porteur. Pourquoi? Pourquoi porter les bagages des autres? C'est mon métier. Non, c'est une injustice sociale. Ça dépend des pourboires. Comment ça va, Moscou? Très bien. Les derniers procès ont été parfaits. Il y aura moins de Russes, mais ils seront meilleurs.
C'était un extrait de Ninotchka, la première fois où Garbo faisait rire au cinéma, et surtout où elle a ri elle-même, et avec ce petit passage, comment ça va à Moscou, très bien, les procès se passent bien, on est à l'époque de Staline, il faut le rappeler, Jean-Lé Laprune.
Tout à fait, c'est-à-dire que Ernst Lubitsch, c'est une comédie qui était assez gonflée, Ernst Lubitsch était allé lui-même en Union soviétique, on était rentré sans dire un mot sur ce qu'il avait fait, et Ninotchka, qui n'était pas un projet d'Ernst Lubitsch, est arrivé juste après. Alors c'était assez gonflé, parce que c'est une comédie qui nécessite une connaissance politique du spectateur de l'époque de Moscou, des procès de l'Union soviétique, qui n'était pas évident, surtout la maître Goldwyn-Mayer, qui avait quand même pour habitude de gommer tout ce qui pouvait être arrière-fond politique. Des films, par exemple, pour parler de Greta Garbo, un film comme Marie Walewska gomme complètement le côté politique du personnage de Napoléon et transforme ça en histoire d'amour et en contrarié par la raison d'État. Pas du tout ce que pouvaient faire d'autres studios qui faisaient Juarez, qui faisaient Pasteur, qui faisaient Zola. Je pense à la Warner Bros. C'était, là, pour le coup, la maître Goldwyn-Mayer était très, très apolitisée par rapport à tout ça. Maintenant, Greta Garbo avait déjà ri quand même dans La Reine Christine, mais c'est vrai que là, c'était sa première véritable comédie.
C'est un très beau film. Je ne sais pas où le placer dans la série des films qu'elle a tourné, 25, mais c'est un film assez extraordinaire.
C'est son avant-dernier film, Jean-Yves Prune, parce que deux ans plus tard, là on était en 39 avec Ninotchka, deux ans plus tard, alors elle va se faire, elle rit plus du tout, elle va se faire assassiner par la critique avec ce qui sera son dernier film, La femme aux deux visages de Cukor. C'est un mauvais film, parce que Cukor, c'est quand même pas rien.
Écoutez, d'abord, en le revoir aujourd'hui, c'est plutôt une bonne comédie, même si c'est pas le meilleur film de Cukor, mais c'est quelque chose qui se voit de façon très très agréable. C'est un film qui a subi quand même pas mal d'erreurs, pas mal de vicissitudes. D'abord, la première, c'était de vouloir faire de Greta Garbo, dont le principal public se situait en Europe, de vouloir faire une américaine.
Oui, on dit qu'elle était plus appréciée en Europe et sur son continent d'origine qu'aux États-Unis.
Plus appréciée, je ne sais pas, mais en tout cas, ce qui était certain, c'est que Jean Lamette Goldwyn-Mayer savait qu'elle ne pourrait plus être appréciée sur les marchés européens, qui étaient bloqués à cause de la guerre. Donc, très rapidement, ils ont décidé d'américaniser Greta Garbo, d'en faire un personnage plus proche, disons, de Claudette Colbert ou de Carole Lombard à l'époque, très très éloigné de Marie Walewska, de la reine Christine. Donc, Greta Garbo n'est déjà qu'à moitié à l'aise. Le scénario est pas très bon. Beaucoup de gens sont dessus, le refont en permanence. De surcroît, le film se fait attaquer par la Legion of Decency à cause d'histoire. Ça laisse supposer qu'il puisse exister des relations prémaritales entre deux héros d'une histoire.
Quelle horreur.
Maître Goldwyn-Mayer le refuse à tout prix. Et, dernier point, le film sort quelques jours à peine après Pearl Harbor. Et donc, c'est un échec cuisant. Et effectivement, la critique assassine Greta Garbo pour la première fois.
Alors, ce sera son dernier film. 1941, elle va vivre ensuite pendant 49 ans encore, sans plus jamais tourner. Je crois qu'il y a eu des projets, mais en fait, c'est fini. Elle arrête. Est-ce que c'est elle qui a décidé d'arrêter? Parce qu'il y a eu des projets, justement, qui n'ont pas...
C'est pas fait d'un seul coup. Il y a eu, effectivement, après l'échec de La femme aux deux visages, d'abord, il y a eu une période un petit peu incertaine. Elle est restée sous contrat avec la maître Goldwyn-Mayer pendant un an. Elle devait faire un film qui s'appelait La fille de Leningrad. Greta Garbo est partie. Et là, les projets sont succédés, souvent très, très excitants. Par exemple, il y avait un film de Pabst, d'Ulysse, où elle devait tenir le rôle de Pénélope. Elle devait faire Le procès Paradis, d'Hitchcock, mais elle a été remplacée par Alida Valli pour mille et une raisons. Et il y a un projet qui a capoté, qui manifestement est le projet de trop, c'était une version de La Duchesse de Langeais en couleur, pour laquelle elle a passé des essais, qui existent encore, on peut les voir, Greta Garbo, les seules images de Greta Garbo en couleur. Et puis le coproducteur italien du film Rizzoli, pour des raisons d'évaluation de l'air, je crois, a jeté l'éponge, et le projet a été abandonné, Greta Garbo après...
Il y a peut-être aussi la concurrence quand même d'une nouvelle génération d'actrices, les Ginger Rogers, Joan Crawford, Catherine Hepburn qui arrivent aussi. Et elle a 36 ans.
Oui, mais d'un autre côté, regardez, quelqu'un comme Gloria Swanson a fait un comeback absolument incroyable avec Boulevard du Crépuscule. Garbo avait toujours probablement sa photogénie, sauf qu'elle n'en avait plus envie.
En tout cas, c'est la fin à 36 ans donc de sa carrière au cinéma et le début d'une vie dans laquelle, pendant près de 50 ans, elle va fuir les journalistes.
L'île de France ramène à New York une personnalité dont la célébrité n'a d'égal que la modestie. Greta Garbo, la divine, dont les vacances en Europe ont été gâchées par les indiscrets, retrouve en rentrant chez elle la meute fidèle des reporters et la rançon de la gloire.
Et d'une gloire qu'elle cherche finalement, qu'elle cherche à fuir en quelque sorte. Ce qui est extraordinaire quand même, c'est que cette femme dont on sait qu'elle n'a jamais accordé, je crois, d'interview à un journaliste, s'il y en a un jour qui arrive, comme ça il s'approche d'elle, et elle lui dit zut, et alors il titre dans son journal, il dit, elle m'a accordé un entretien, elle m'a dit zut. Mais en fait, pas un mot d'elle en dehors de ce qu'on entend au cinéma. Comment se fait-il qu'on ait continué pendant 50 ans à la poursuivre comme ça? Parce qu'au fond, quand un acteur disparaît de la scène, bon, on n'en parle plus tellement, elle, on en a parlé pendant les 50 dernières années de sa vie.
Pour deux raisons. La première, celle que nous indiquions un petit peu en ouverture, qui est une photogénie absolument incroyable. Quand vous regardez la carrière de Garbo, il n'y a pas beaucoup de chefs-d'œuvre, en définitive. Vous avez Ninotchka, vous avez la reine Christine, vous en avez peut-être un ou deux autres, mais pas de grands films à proprement parler, mais une présence qui fait qu'à chaque fois, vous la regardez dès qu'elle apparaît sur un écran. Et la deuxième chose, c'est que le mythe s'est constitué petit à petit, comme Fedora, le film de Billy Wilder, avec cette actrice qui se promène de ville en ville, de Suisse, en France, en Italie, en Espagne, sans vouloir être reconnue, on ne sait plus très bien qui c'est. Garbo aurait fait une seule apparition dans un film, on peut imaginer que le mythe aurait été légèrement ébréché. Ça n'a pas été le cas, et aujourd'hui, la dernière image qu'on ait de Garbo, c'est les images en couleur donc de la Duchesse de Langeais, et avant, la femme aux deux visages, qui explique quand même que l'impression qu'elle est toujours...
parce que c'est pathétique. Elle est quand même, elle vit au cœur de la plus grande ville du monde, New York. On la traque. Il y a tellement de gens qui attendent. Elle sort souvent parce qu'elle va. Alors, elle a sa nouvelle passion. Elle va acheter des toiles de maître. Elle avait chez elle un Renoir, des toiles extraordinaires. Elle va acheter des antiquités et on l'attend partout. On rêve de la rencontrer et en plus elle se cache.
On la reconnaît pas. Ouais. On la reconnaît pas. Par exemple, il y avait eu la projection d'un de ses films muets qui était La chair et le diable en 1985 à New York, au Radio City Musical, quelque chose comme ça. Il y a la rumeur qui a parcouru qu'elle était dans la salle. Et d'un seul coup, tout le monde s'est regardé, et toutes les dames un petit peu âgées avec un chapeau et des lunettes étaient dévisagées jusqu'à l'excès, mais personne n'avait été capable de reconnaître Greta Garbo.
Et elle est morte tout à fait dans la solitude, ça aussi c'est assez triste. Au fond, si elle aimait ça, peut-être pas pour elle, au fond.
Elle aimait la solitude, elle avait un goût pour la solitude, elle le dit, elle l'a répété, ça a été parodié, I want to be alone. Elle avait quelques amis proches et fidèles, on parlait de Salkia Firtel, il y avait également Mercedes D'Acosta, il y avait un nutritionniste, Gaylor Dozer, il y avait différentes personnes comme ça qui la suivaient, Madame de Rothschild qui l'accompagnait. Mais dès que dans une soirée, dans une réception, on commençait à la mettre un petit peu en évidence, et j'y pense à propos d'une soirée chez les de Rothschild qui s'est très très mal terminée, où elle est partie quasiment en claquant la porte, elle détestait ça, elle détestait se montrer.
Et elle est morte donc à 84 ans en 1990, elle est née il y a 100 ans, jour pour jour. Merci d'être venu nous en parler, Jean-Léla Prune. Vous n'avez pas écrit sur elle, mais vous êtes l'auteur d'un livre qui va être bientôt, qui va bientôt sortir, Le Louche par Le Louche, qui va paraître chez Calman Levy le 12 octobre prochain. Pour en savoir plus sur Greta Garbo, je recommande quelques livres. La véritable Greta Garbo de Bertrand Meyer-Stablet, édité cette année chez Pygmalion. Et puis aussi de Patrick Brion, la meilleure biographie sans doute de Garbo, publiée aux éditions du Chêne en 1985. Vous avez pu entendre des extraits de Anna Christie, de Clarence Brown, La Reine Christine, de Ruben Mamoulian, Ninotchka de Ernst Lubitsch, trois films disponibles en DVD chez Warner. Ces références sont disponibles par téléphone au 32 30, 34 centimes la minute ou sur franceinter.com. C'était 2000 ans d'histoire.